Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 12 de la deuxième série concernant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le titre sera « Comment obtenir les dons spirituels ?» Il est bon que nous considérions les principes gouvernant la distribution et la manifestation des dons de l'Esprit Saint à cause du commandement qui nous est donné dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 où il est dit « Recherchez la charité et littéralement désirez sérieusement les dons spirituels ». Ajoutons à cela les exhortations à prier pour obtenir la puissance d'interpréter, si nous parlons une langue inconnue, et à aspirer au don de prophétie. Verset 13 et le verset 39. On a dit du chapitre 14 de 1 Corinthiens. De tels passages montrent clairement que nous devons avoir une attitude plus précise à ce sujet et ne pas simplement attendre quelques mouvements de l'Esprit Saint pendant que notre volonté reste entièrement inactive et nos désirs personnels très ou plus que vagues. Nous sommes justifiés en cherchant. Nous avons en même temps besoin d'avancer sur une voie gardée par la connaissance approfondie des principes scripturaires et en montrant une opinion équilibrée sur les divers aspects de la vérité qui s'y rapportent. Chers amis, l'exhortation de saint Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 14, je pense, et 2 Timothée chapitre 1, verset 6, eh bien, ces versets donnent toutes quelques clartés concernant les dons spirituels. Le mot « don » dérive de la même racine grecque que grâce, charis. Nous sommes tous familiers avec la vieille définition splendide de la grâce qui est une faveur imméritée et accordée librement. La grâce veut dire ferveur, bienveillance, c'est ce que dit le dictionnaire. C'est le même mot dans le don gratuit de la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. La plus petite pensée d'un mérite personnel, la plus légère suggestion que le don puisse être acquis par quelque sorte de marché, eh bien ça en est absolument banni. Ils ont, ces dons, une beauté spéciale qui leur est propre. Ils sont les témoignages, on peut dire témoignages d'amour envers l'épouse de Christ, et beaucoup s'en sont aperçus par les présents offerts à Rebecca, rappelez-vous, par Éliézer, ça se trouve dans la Genèse, chapitre 24, verset 53. Il n'est donc pas étonnant que ce sujet soit devenu si cher à ceux dont l'intelligence a été illuminée pour percevoir les richesses de sa grâce. Donc, rien ne détruit plus sûrement le but de ces dons que l'erreur faite par celui qui les reçoit, de placer le don avant le donateur. Je répète cela parce que il y en a qui font des erreurs. Donc rien ne détruit plus sûrement. Il n'y a rien qui puisse détruire le but de ces dons que l'erreur qui a été faite par certains qui les reçoivent de placer ces merveilleux dons avant le donateur. Que personne fasse cette épouvantable faute. Pourtant, ce danger existe réellement. Cet état morbide se développe souvent lorsque on est conscient de posséder un don spirituel, qu'il soit réel ou non, en demandant plus d'importance que d'être en communion avec celui qui l'a donné. On a donc bien compris que nous devons faire attention de ne pas tomber dans ce travers. Certains croyants se sont tellement occupés des dons et des ministères qu'ils ont jeté le discrédit sur eux. Seul le divin donateur peut satisfaire l'âme, or les dons seuls, jamais. Voyez-vous, dans le passage décisif de l'Écriture sainte, notez 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Eh bien, rien ne contredit la pensée que le Seigneur peut manifester n'importe lequel de ses divers dons dans n'importe quel membre du corps, n'importe où et n'importe quand. Si nous ne reconnaissons pas cet aspect de la vérité aussi bien que nous reconnaissons celui de la possession et de la responsabilité individuelle, nous limiterons l'opération des dons de l'Esprit-Saint à la présence personnelle et occasionnelle uniquement de certains membres qui seraient plus doués que les autres. Chers amis, Dieu ne désire pas que ses fils et ses filles deviennent des médiums, cela au sens spirituel. Ils sont des vases qui sont réservés à l'usage du maître, mais ils gardent toujours leur personnalité, avez-vous entendu ? Leur personnalité pleinement consciente, gardant le contrôle de leur volonté, de leur pensée et de leurs sentiments. D'ailleurs, les considérations de l'apôtre Paul au sujet des dons spirituels corrigent cette fausse idée que pendant leur existence, le croyant est rabaissé au rôle d'automate. S'il en était ainsi, les instructions que l'apôtre Paul donne seraient évidemment sans valeur. Il devrait alors penser un peu absurde, me semble-t-il, il devrait corriger le Saint-Esprit plutôt que les Corinthiens. Évidemment, c'est un non-sens. Le mot grec « opère », le mot « opère » dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, cela signifie « donner de l'énergie et stimuler ». Le Saint-Esprit fournissant la puissance nécessaire est manifesté par le don. Si le croyant sent la puissante et douce énergie du Saint-Esprit en lui ou en elle, et qu'il éteigne l'Esprit-Saint comme quelques-uns courait évidemment le danger de le faire. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. La tentative du Seigneur est dans ce cas empêchée. Mais si le croyant cède à l'Esprit Saint dans la foi et l'obéissance, alors apparaissent la beauté et la puissance de paroles et d'œuvres inspirées. Et là, le vrai but, le véritable but des dons de l'Esprit Saint est donc atteint. Alléluia. Il va sans dire que toute tentative de produire de façon purement naturelle une imitation d'un don spirituel sans le Saint-Esprit pour vivifier cette action rabaisse ces choses saintes au ridicule. Moi, je peux simplement vous dire que j'ai fait quelques erreurs il y a fort longtemps de cela dans ce sens. Et j'ai considéré ça comme un péché des plus grands qu'on peut imaginer, peut-être même plus grand que quelqu'un qui commettrait l'adultère. Ça engage que moi. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai demandé pardon à la Trinité divine, parce que j'ai pris cela très au sérieux. C'est donc une chose sérieuse. Il ne faut pas donner des impulsions à soi-même qu'on ne possède pas. C'est cependant à de telles absurdités que des chrétiens sincères, mais très mal dirigés, peuvent arriver. Voyons un peu les deux côtés de ce sujet, la distribution et l'action des dons spirituels, le divin et l'humain, et nous ferons bien de les considérer séparément. Tout d'abord, voyons le point de vue divin. Dieu est parfaitement souverain dans l'attribution des dons. Le Saint-Esprit les répartit comme il veut, selon 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Notez encore les expressions « comme il a voulu » au verset 18. Et notez également le verset 28, j'ai dit 1 Corinthiens, chapitre 12. Il n'y a donc place pour aucun sentiment de jalousie quand il s'agit des dons spirituels. Ils diffèrent simplement selon la grâce qui nous a été accordée, Romains chapitre 12, verset 6. Et ceux qui possèdent les dons les meilleurs ou les plus apparents, ils ne doivent pas s'enorgueillir, mais ils doivent revêtir des sentiments modestes. Et cela selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun d'entre nous. Verset 3 de Romains chapitre 12. Donc à lui seul, au Seigneur, toute la gloire. Amen. S'il n'y a pas place pour l'orgueil, il y a place pour l'adoration. Car sur toute manifestation d'un vrai don de l'Esprit Saint, on pourrait écrire « C'est ici le doigt de Dieu, comme au temps de Moïse. La faiblesse et l'imperfection naturelle de l'homme n'en font que mieux ressortir la grâce souveraine du donateur. » Il y a, notons-le maintenant, un moment où les hommes peuvent devenir en quelque sorte les instruments par lesquels s'exprime la souveraineté divine. C'est ce que montre le cas de Timothée. Deux fois, l'apôtre Paul parle de son don spirituel comme ayant été conféré par l'imposition des mains. 1 Timothée chapitre 4 verset 14 et 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Il rappelle donc à Timothée les circonstances solennelles dans lesquelles les anciens lui imposèrent les mains. L'apôtre Paul était probablement du nombre, on le pense, et il s'agit sans doute de sa consécration au ministère avant le fameux départ de l'Istre, Actes chapitre 16. Et on voit aussi que l'un des anciens a dû recevoir une prophétie révélant par l'Esprit Saint la nature du don qui était conféré au jeune homme. Il n'y a là rien de contraire à la souveraineté de Dieu dans l'attribution des dons spirituels, bien au contraire, cela s'accorde avec l'ensemble de la révélation qui nous montre que le Tout-Puissant consent à travailler par le moyen des hommes et en collaboration avec eux. Ne croyez jamais que par l'imposition des mains, les hommes ont en leur pouvoir et au gré de leur volonté l'attribution des dons. Ce rite si beau et si approprié n'aura d'efficacité que dans la mesure où ceux qui le pratiquent sont vraiment dans la volonté de Dieu et surtout rempli du Saint-Esprit. Mais ce rite, car c'en est un, est parfaitement conforme à l'Écriture sainte et nous faisons bien de nous y soumettre, et cela en nous adressant à des frères vraiment pieux, intègres, lorsque nous recherchons des bénédictions ou des dons spirituels. Ayons donc confiance, car le Seigneur fera honneur aux méthodes, à toutes les méthodes qu'il a lui-même instituées. Nous allons voir maintenant le point de vue humain. Nous avons vu que Dieu est souverain dans l'attribution des dons spirituels. Cette souveraineté s'exprime par la remise directe des dons sans intervention humaine ou bien par leur remise au moyen de l'imposition des mains. Nous voulons chercher maintenant s'il y a de la part de l'homme telle action ou telle attitude qui puisse concourir à la réalisation du plan de Dieu ou, au contraire, qui pourrait peut-être l'entraver. Alors nous suggérons les choses suivantes. Premièrement, il faut premièrement avoir une vie consacrée. Et je demande au Seigneur, car j'en ressens vraiment le besoin de me sanctifier davantage. Oh oui. Eh bien, par là, nous entendons évidemment une soumission absolue à la volonté de Dieu, telle qu'elle s'affirme souverainement dans les paroles qui disent « comme il le veut ». Comme il le veut et non pas comme moi je veux. je dois être prêt à recevoir n'importe quel don selon ce que le Seigneur le veut pour moi. Donc, il est tout naturel, par exemple, de désirer les dons de guérison. Et nous avons souvent rencontré des croyants qui ne veulent absolument pas avoir le don des langues. Ce n'est pas tout à fait mon cas, puisque je prie pour cela depuis déjà un bon moment. Mais c'est le Seigneur qui est le patron. Il peut aussi y avoir des empêchements par notre faute. Donc, dans ce cas, nous devons chercher où ça cloche. En réalité, il faut avoir une attitude complète, et je l'ai déjà dit, complète de soumission. Être un peu moins fier de soi, moins orgueilleux, et avoir un peu d'humilité. Car Dieu seul sait quel don chaque croyant est à même d'exercer pour la gloire de son Saint-Nom, et Dieu seul sait quel don est le mieux adapté à la situation spirituelle de chacun de ses enfants. Il est donc aisé de voir qu'il y a des dons qui feraient beaucoup de mal à l'individu et même à l'Église, s'ils étaient donnés là où il n'y a pas un degré avancé, et on y revient, de sanctification. Inversement, la pratique même de certains dons peut contribuer à la sanctification du caractère. Ainsi, la guérison peut développer la compassion et le discernement des esprits, il peut porter à la vigilance et le parler en langue peut rabaisser certains orgueils intellectuels. Deuxièmement, la prière est bien entendu très importante. La souveraineté de Dieu n'enlève à la prière ni sa raison d'être, ni sa puissance. Et en ce qui concerne les dons spirituels, la Sainte Parole exhorte le croyant à les demander par la prière. Il est parfaitement légitime de désirer ardemment certains dons, pourvu que l'on garde une attitude de soumission. Un tel désir nous est même recommandé en des termes très forts, où il est dit « aspirer aux dons spirituels ». 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. C'est-à-dire « ayez une forte ambition ». Pas douter de tous les côtés. Aucune expression ne saurait être plus énergique. Donc, portez-vous de tout cœur au don de prophétie, et cela selon 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 39. Car il est dit que celui qui parle en langue doit ou devrait prier pour avoir le don d'interpréter. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 13. Donc, toutes ces expressions montrent qu'il ne s'agit pas de rester assis, simplement les bras croisés, pour attendre vaguement ce qui pourrait se présenter éventuellement. Il faut qu'il y ait un véritable désir réel et profond qui vienne s'unir à la souveraineté divine. Ne refusons donc pas de nourrir dans notre vie chrétienne une ambition réellement sainte. Voyez-vous, Dieu ne se joue jamais d'un cœur sincère. Le désir même qu'il inspire est déjà comme une promesse qu'il réalisera pleinement un jour, et cela comme et où il voudra. Et troisièmement, il est bien entendu important d'avoir la foi. Ça, c'est la condition qu'on a tendance à ne pas comprendre quand on cherche ou que l'on pratique les dons spirituels. Notre expérience, elle nous porterait à dire que ce qui empêche plus que tout le reste, eh bien les croyants, de pratiquer les dons spirituels, c'est l'incrédulité qui nous empêche de pratiquer ces dons, ou le doute. Bien sûr, tout cela est tout ce qu'il y a de plus sérieux, et nous ne devons pas simplement pratiquer les dons pour montrer aux autres chrétiens autour de nous, voyez ce que je suis capable de dire ou de faire. Alors là, il faudrait se repentir très, très sérieusement. Remarquez cependant le fameux passage de Romains, chapitre 12, versets 3 à 6. Là, notre ami saint Paul, il dit que la pratique d'un don vient de la foi et qu'il dépend de la mesure de cette foi. En toute chose, le Seigneur fait de ma foi la condition de la communication en moi de sa vie et ainsi aussi de sa puissance divine. Donc rien ne disqualifie autant l'homme pour le service du Maître que l'incrédulité et le doute. Ce n'est pas la prière qui sauve le malade à lui-même. La prière est nécessaire, mais ce n'est pas à elle seule. C'est pas elle seule qui va sauver le malade, le guérir, mais c'est surtout la prière de la foi. J'ai une fois lu « Ayez la foi de Dieu ». Ça veut tout dire. Jacques 5, c'est donc la prière de la foi qui est indispensable. Nul incident n'illustre mieux ce principe que saint Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 30, où nous voyons l'apôtre Pierre marchant sur les eaux. Notre cher ami Pierre, il a les yeux fixés sur Jésus. C'est indispensable. Et là, il avance. Or, quand il les détourne les yeux de son Sauveur et Seigneur, voilà qu'il commence d'enfoncer. C'est dans notre vie pareil. Ainsi en est-il pour les dons spirituels. Si l'on fixe les yeux de l'Esprit sur le Seigneur, on les pratiquera librement, mais que si nous détournons les yeux de notre Sauveur et Seigneur, de notre donateur, alors l'échec, elle sera malheureusement là. Chers amis, quelle erreur de croire que dans l'exercice des dons spirituels, le croyant est contraint par le Saint-Esprit en dépit de sa volonté. Il n'en est jamais ainsi quand c'est Dieu qui inspire les paroles ou les actes. Il ne touche jamais à la liberté de la volonté humaine. La manifestation de l'Esprit-Saint, elle peut être par nous éteinte. Oui, nous pouvons éteindre l'Esprit-Saint en nous. Et inversement, on peut aussi céder si promptement et si intelligemment aux influences du Saint-Esprit qu'on assistera à la manifestation immédiate et très belle de n'importe quel don. Gloire à Dieu. Donc tel doit être notre but et il montrera Dieu et l'homme qui s'unissent en un seul, non pas un esclave qui serait manœuvré par un maître, non, pas un robot, pas un clone, non, 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 non. Mais il peut bien sûr arriver que les dons spirituels peuvent résider, se trouver dans le croyant, hein, et cependant, ils peuvent rester comme en quelque sorte en sommeil, sans se manifester. Timothée, lui, il courait ce danger-là. Et l'apôtre Paul l'exhorte à ne pas négliger le don qui était en lui. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Une autre fois, il lui donne un ordre encore plus précis. Il lui dit « Réveille ou ranime le don ». 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Ces passages nous donnent à penser que beaucoup de croyants n'ont pas tant à prier pour recevoir des dons que à veiller à la pratique de ceux qu'ils possèdent déjà. Et dans ce cas, il ne sert donc à rien de rejeter la responsabilité sur le Seigneur, comme s'il n'avait pas accordé le don, ou encore comme s'il l'avait peut-être retiré. C'est donc aux croyants qu'il appartient de ranimer le don qui est en lui, et cela chaque fois que le Saint-Esprit vient le visiter et cherche à remettre en opération la manifestation trop négligée de sa présence. Avec quelle fermeté les conseils que l'apôtre Paul donne à Timothée mettent-il en lumière la responsabilité de l'homme dans la pratique des dons de l'Esprit-Saint. Tout se passe comme si Dieu s'était réservé la souveraineté dans l'attribution des dons et avait ensuite laissé l'homme souverain pour ce qui concerne la liberté et l'utilité de leur manifestation. Relisez un peu 1 Corinthiens, chapitre 14. Chers auditeurs, il est important maintenant d'examiner quelques difficultés. L'expérience nous a montré que lorsque les croyants possèdent les dons spirituels, il se présente certaines difficultés et nous proposons de les examiner loyalement. Que les auditeurs nous accordent leur indulgence il est absolument légitime que tous ne soient pas ici du même avis. Nous pouvons avoir des divergences d'avis, mais sur les points essentiels, nous accorder. Et donc inutile de ne pas être amis véritables, de s'aimer les uns les autres et de se respecter. Nous voulons donc traiter ces matières selon la mesure de lumière que Dieu nous a accordée. Et cette mesure de lumière, elle est limitée. En tout cas, en ce qui me concerne, j'en suis très conscient. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de lumière. C'est absolument vrai. Et j'en suis heureux pour eux. Et nous devons remercier le Seigneur qu'il a donné à certains beaucoup de lumière. Certes, nous essayerons donc, chers amis, autant qu'on peut, de répondre à chaque question par le moyen des Saintes Écritures. L'autorité de la Sainte Parole de Dieu est donc notre recours suprême. Mettez toujours la Bible de côté, plutôt à côté de vous. Car inventer des théories, même s'ils sont très plausibles, là, nous risquons de nous égarer. C'est pour ça que je dis, mettez votre Bible toute à côté de vous et pas trop éloignée. Obéir aux Saintes Écritures n'est jamais un esclavage, pas du tout. Et l'on n'a pas de véritable liberté quand on rejette toutes ces données et ces explications qui nous sont offertes merveilleusement. L'expérience chrétienne et l'histoire de l'Église, ils illustrent ce principe d'une manière très convaincante. Il est dit à la loi et au témoignage. Donc, la plupart des difficultés pratiques qui naissent de l'usage des dons spirituels concernent les dons de prophétie, des langues ou d'interprétation. Ça, c'est donc une matière qui paraît tellement étrange à la plupart des chrétiens de nos jours. Et c'est avec regret que nous devons, hélas, le constater. Oui, les questions qui sont le plus souvent posées, ou le plus fréquemment, sont les suivantes. Nous les avons déjà un peu survolées, mais c'est pas totalement inutile d'en revoir quelques-unes. Premièrement, prenons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. Il est dit « Tous parlent-ils en langue ?» C'est une question qui peut nous faire bourdonner les oreilles. Comment conciliez-vous avec ce verset la doctrine selon laquelle tout croyant devrait parler en langue quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Chers amis, il n'est pas conforme à l'Écriture sainte de dire que tous les chrétiens remplis de l'Esprit doivent posséder le don des langues. Ça engage que moi, et je peux comprendre qu'il y en a qui seront d'un avis contraire. Restons quand même frères et sœurs. L'apôtre Paul enseigne très clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 12, que les uns ont un don et d'autres en ont un autre. Toutefois, l'Esprit Saint peut produire à l'occasion, chez un croyant baptisé de feu, une manifestation de n'importe quel genre, sans que celle-ci constitue un don permanent et reconnu comme tel. Ainsi l'apôtre Paul dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. Chapitre 14, verset 31. Cependant, tous ne sont pas prophètes au sens officiel de Éphésiens chapitre 4, verset 11. Tous les croyants peuvent se mettre au bénéfice de la parole qui dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Saint Marc, chapitre 16, verset 18. Cependant, tous n'ont pas les dons de guérison. Il en est de même du don des langues. De toute évidence, tous parlèrent, il est vrai, en langue le jour de la Pentecôte. C'est absolument vrai. Actes chapitre 2, verset 4. Et dans la maison de Corneille, tous ont parlé en langue lorsque l'Esprit Saint est descendu. Actes 10, verset 44 à 46. Mais il ne s'agit pas ici du don des langues qui serait conféré d'une manière permanente à certains membres du corps de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, et notez le verset 30. Mais d'une manifestation de l'Esprit Saint qui laissait ainsi connaître qu'il était descendu sur ses croyants. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 30, il est dit, ne l'oublions pas. Il est donc montré que nous ne devons pas oublier que l'apôtre n'a pas traité de l'expérience initiale au baptême de l'Esprit Saint, mais il a traité des dons conférés d'une manière permanente. Donc, la règle donnée dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, ne s'applique certainement pas dans les circonstances que relate Actes chapitre 2, verset 4, ainsi que le chapitre 10, verset 44, et ajouter encore le chapitre 19, verset 6 des Actes des Apôtres. Chers amis, voyons ensemble encore, on peut dire, deux questions ou les deux questions suivantes. Premièrement, est-il permis d'interrompre un prédicateur par un message en langue? Oui, j'ai été, il y a fort longtemps, témoin de ce genre de choses. Oui, bien que j'ai déjà traité ce sujet, je vais quand même, car c'est important, en parler encore un peu. Essayons donc de comprendre qu'une interruption en langue cela risque de briser l'élan du message du pasteur, du révérend, de celui qui apporte la sainte parole. Et cela au détriment, bien entendu, on l'a compris, de cet orateur et même des auditeurs. Et je suis sûr que si vous creusez la chose et que si vous vous mettriez à la place de l'orateur, que ce soit un pasteur, un révérend, que ce soit un prêtre ou n'importe, un frère ou une sœur en Christ, je ne crois pas que ça va aider l'orateur à retrouver son fil, c'est pas dit. Donc ceux qui interrompent le prédicateur qui est rempli aussi de l'esprit, ils le font parce qu'ils reçoivent peut-être un témoignage intérieur qui accueille la Sainte Parole. Mais ce témoignage n'est pas une raison totalement suffisante, mais pas du tout, pour oser d'une façon un peu, comment faudrait-il dire, pas très galante, d'interrompre le prédicateur. Bien loin de là, ils craignent à tort d'éteindre l'Esprit Saint en se taisant. Mais il serait plus utile, me semble-t-il, s'il s'employait sous l'action de l'Esprit Saint qui agit en eux à maintenir dans la réunion le sens de la puissance et de la présence de Dieu. La vapeur, par exemple, qui se trouve dans la locomotive, elle n'a pas pour but principal de faire fonctionner le sifflet. On est d'accord avec ça. Mais bien de faire avancer tout le convoi. Que tout se fasse donc avec bienséance et avec ordre, nous est-il recommandé dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Ce principe, eh bien, il s'applique ici. Deuxièmement, il y a-t-il une différence entre le don de prophétie et la charge de prophète ? L'esprit de prophétie peut, de temps à autre, saisir une assemblée entière. Apocalypse chapitre 19, verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 et 31. Et tout croyant rempli de l'Esprit Saint peut, à l'occasion, prophétiser, c'est-à-dire donner un message inspiré. Mais tous sont-ils prophètes ? 1 Corinthiens 12, verset 29. Il y a une chère sœur qui nous venait d'Amérique. Elle s'est présentée comme étant une prophétesse et, j'ajoute, canonisée. C'est moi qui ajoute cela, avec mon humour. Mais elle était tout à fait sérieuse et elle y croyait fermement. Elle était absolument certaine qu'elle était une prophétesse. Eh bien, les prophètes constituaient un groupe bien défini. Notez 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 29 à 32. Et ils pratiquaient régulièrement le don spirituel de prophétie dans les églises. Romains 12, chapitre 6 et... Non, Romains chapitre 12, verset 6, pardonnez-moi. Ensuite, notez aussi 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. On parle, bien entendu, des prophètes dans les passages suivants, tels que Actes 11, verset 28, chapitre 13, verset 1, chapitre 15, verset 32, et chapitre 21, verset 10, si je ne me trompe pas. Bien entendu que l'Église attachait un grand prix à leur message inspiré, et c'est pourquoi nous voyons la charge de prophète qui est mentionnée tout de suite après celle d'apôtre. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, et Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'habitude de donner le nom de prophète, comme cette chère sœur qui est venue d'Amérique et qui était absolument certaine qu'elle était une prophétesse. Eh bien, je répète, aujourd'hui, nous n'avons pas l'habitude de donner le nom de prophète à tous ceux qui se servent régulièrement du don de prophétie dans leur ministère. Aussi, quelques personnes pensent-elles que nous n'avons plus de prophète. Ça, c'est évidemment une erreur. Ce n'est pas le titre seul qui peut créer la charge et l'établir dans l'Église, mais c'est le ministère que la personne a reçu de Dieu, et peu importe les fameux noms que nous pouvons donner à ces ministres, la charge, elle ne constitue donc pas simplement dans le nom, mais elle consiste dans la puissance, c'est pas pareil. Il me semble qu'il est important de proposer 3 sortes de considérations. Premièrement, un regard tourné vers le dedans, qui sera le point de vue analytique. Un regard en haut, qui sera le point de vue de la piété. Et un regard au dehors qui sera le point de vue pratique. Prenons donc, premièrement, un regard au dedans qui est le point de vue analytique. Eh bien, ici, nous essayons de sonder les dons eux-mêmes, et cela avec le respect qui s'impose dès que l'on tente d'analyser les opérations de l'Esprit-Saint de Dieu. Prenons garde à la manière dont nous regardons dans l'Arche Sainte. Néanmoins, une telle étude a sa raison d'être. Elle est même indispensable à notre sens, surtout pour ceux qui sont appelés à être docteur ou conducteur d'âme. Cette étude n'est donc pas sans danger. Il faut se souvenir que pour le moment, nous connaissons en partie seulement, et nous devons nous comporter avec humilité à l'égard des mystères de Dieu. Le point essentiel dans cette analyse des dons de l'inspiration est une chose sérieuse. Et si on enlevait ce fameux trait d'un tableau des dons de l'Esprit-Saint, eh bien on les affaiblirait bien au-delà de toute mesure et peut-être même au point de les rendre méconnaissables. Donc tous les fondamentalistes, Ils admettent en général, et d'une manière à peu près unanime, l'élément surnaturel, c'est-à-dire l'élément d'inspiration des dons spirituels de l'Église primitive, et ceci au moins en ce qui concerne les guérisons, les miracles, la prophétie ou les langues. La logique exige, croyons-nous, que l'on étende, comme nous l'avons fait, cet élément-là, qui est surnaturel, à la totalité des dons. Faisons attention. C'est donc là seulement, ou la seule manière, d'interpréter ce que en dit le Nouveau Testament, c'est la seule qui rende justice aux dons. Il faut maintenir jalousement cette conception de l'inspiration, sans quoi tout exercice des dons spirituels pourrait perdre assez vite son efficacité et sa puissance. La notion d'inspiration doit donc être clairement définie et avec mesure, afin qu'elle ne devienne pas la source du fanatisme, parfois le plus extravagant. Deuxièmement, jetons un regard maintenant en haut. Nous avons dit que ça c'est le point de vue de la piété. Ici, nous faisons halte pour admirer, aimer et louer. Le but d'un don est toujours de nous conduire au donateur. N'oublions jamais cela. Les dons de l'Esprit-Saint sont toujours, pour le croyant, une occasion d'adorer. Ils lui rappellent constamment la présence de Dieu. Ils doivent donner même à l'incroyant, quand on les exerce d'une manière convenable, un sens si net de la présence de Dieu qui va éveiller la conviction de péché. Actes chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 14 verset 25. Rien n'est donc plus navrant que de voir des chrétiens se mettre à jouer avec les dons spirituels comme des enfants, s'amusant avec leurs jouets, en jouissant seulement pour eux-mêmes, égoïstement, en tirant une satisfaction et une sorte de gloire personnelle, et puis soudain, perdant la notion de leur grandeur, et les négligeant comme un enfant fait de ses jouets. Combien cela doit attrister le Saint-Esprit? Ah oui, c'est sérieux. Donc ces dons glorieux, ce sont des manifestations du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils proviennent de la divinité elle-même. Et si nous les ramenons avec respect à leur source, nous trouvons qu'ils nous placent parmi les attributs même de Dieu. Quand nous nous élevons sur les cimes de la communion avec Dieu, nous commençons de découvrir que les 9 manifestations de l'Esprit-Saint qui sont mentionnées par saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11, contiennent bien autre chose que simplement des formes particulières de ministère dans les assemblées et les églises. Ils sont aussi des indications et des types, des exemples et des éléments de ces, on peut dire, de ces voies éternelles de l'activité divine par lesquelles l'Esprit-Saint de Dieu a opéré à travers tous les siècles. Et en dernière analyse, il révèle le Seigneur dans toute sa puissance, dans toute sa sagesse infiniment variée. Oui, les dons de guérison, par exemple, ne sont qu'un ruisselet qui vient du grand fleuve de la vie même du Dieu vivant en qui nous avons la vie, nous avons le mouvement et l'être. Les dons de sagesse et de connaissance sont comme une clé qui nous ouvre un peu les immenses trésors de sagesse, de connaissance qui résident uniquement en Christ. Colossiens, chapitre 2, verset 3. Et par le discernement des esprits, nous participons à l'attribut glorieux et redoutable de la toute science. Et cela, tout devient nu, je répète, par le discernement des esprits. Nous participons en quelque sorte à l'attribut glorieux et redoutable de la toute science par lequel tout est nu. Tout est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte un jour, peut-être bientôt, c'est-à-dire notre Créateur Tout-Puissant qui lui seul voit parfaitement le commencement et la fin de toute chose. Peut-être le plus précieux de tous les dons est-il celui qui révèle l'émotion de Dieu, c'est le don de prophétie, le don merveilleux par lequel l'âme de l'homme peut en quelque mesure être à l'unisson du cœur d'un Dieu infini et laisser passer en elle quelque chose de la passion, des appels, de l'indignation ou de la tendresse de notre Père Céleste. Un champ qui est donc très vaste va s'ouvrir devant celui qui veut étudier avec piété les dons spirituels. Leur étude accroîtra grandement notre connaissance de celui dont il est dit que la vie éternelle, c'est de le connaître. Et le but des dons est de nous conduire au donateur. Pour terminer notre étude, nous avons troisièmement le regard au dehors. Ça, c'est le point de vue pratique. Nous devons finalement lever les yeux et regarder les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et une analyse a donc sa raison d'être. La religion d'amour, elle doit toujours trouver sa place dans les cœurs. Mais que les chrétiens soient absorbés exclusivement par l'analyse ou la jouissance d'expériences spirituelles est absolument contraire à l'esprit de Christ. La question des dons spirituels, elle est liée aux réalités du monde dans lequel l'Église est appelée à œuvrer et à témoigner si elle ne veut pas tomber sans espoir dans le morbide. Voyez-vous ? Donc tout cela est très important et je vous conseille à l'occasion de réécouter cette étude qui va mieux nous faire comprendre à tous, et moi y compris, l'importance et le sérieux des dons spirituels. Chers amis, nous allons donc terminer maintenant par la prière. Prions maintenant. Seigneur, je loue les plaies et le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon corps, qui guérit les faiblesses de mon âme et qui guérit les faiblesses de mon esprit. Gloire soit donc rendue au sang de l'agneau. Car dans sa puissance se trouve le pardon. Dans sa puissance se trouve la possibilité d'être purifié. Dans sa puissance de délivrer se trouve la délivrance. Dans sa puissance se trouve la victoire. Dans sa puissance, c'est de rendre toute chose nouvelle. Et dans sa puissance se trouve la protection. Rien n'est donc impossible à celui qui croit en la puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, je loue le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui couvre tous mes péchés de sorte qu'on ne les voit plus. Et aussi, il me purifie de tous mes péchés, le Seigneur, de sorte que je suis blanc comme la neige, et dans lequel se trouve la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes du péché, qui est plus fort que mon propre sang souillé. Le sang de Christ est bien plus fort et il me transforme en l'image de Dieu. Le sang de Christ qui a la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Le sang de Christ me protège des assauts insidieux de l'ennemi et qui me prépare la robe blanche pour les noces, pour les noces de l'agneau. Oui. Donc, je loue le sang de l'agneau qui fait toute chose absolument nouvelle. Oui, c'est par tes meurtrissures, ô Seigneur, que nous sommes guéris. Et chers amis, continuez de prier aussi pour tous ceux qui sont malades, qui se trouvent dans vos familles et autour de vous. Priez pour eux. Et je vous dirai simplement, en disant Amen à notre prière, que ma voix était complètement détruite en quelque sorte, je ne pouvais même plus parler que, comment est-ce qu'on appelle cela en français, de vaguement murmurer, de sorte qu'il faut s'approcher de l'oreille de la personne pour qu'elle puisse m'entendre. Eh bien, le Seigneur m'a redonné la voix intacte pour continuer de parler et de faire ces CD d'une façon efficace. Il m'a rendu la voix. Et cela dû à la prière de la foi, mais pas de la mienne, mais la prière de la foi de Dieu. Chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite des études qui sont importantes pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse richement et à demain matin, Dieu voulant. Au revoir.